RMC, les grandes gueules.
Depuis quelques mois, il y a une grosse hausse. L'essence, je l'ai payé 2,20€, le 98 sans plomb.
C'est inapproprié de mettre des prix comme ça pour le carburant. Donc 1,50€ en plafonné, c'est très bien.
1,50€ comparé à 1,94€ aujourd'hui, ça fait une sacrée économie.
J'ai vu les taxes qu'ils mettent quand même. Ils peuvent penser à nous les salariés.
En l'État donne de l'argent quelque part, il faut qu'ils les récupèrent. Donc ils récupèrent sur la TVA par l'essence et ainsi de suite. Donc c'est utopique.
On nous donne d'une main pour mieux nous reprendre d'une autre. Je ne sais pas si c'est le bon plan.
C'est vrai que depuis octobre 2023, l'essence n'a jamais été aussi chère, presque 2€ à la pompe. Alors c'est vrai qu'il existe des chèques carburant, ouais, mais ça c'est le problème, c'est qu'il faut, voilà, c'est soumis à certaines conditions. Tous les Français, tous les automobilistes peuvent pas obtenir ce chèque carburant. Est-ce qu'il faut plafonner à 1,50€? Est-ce que c'est la bonne idée, Jérôme Marty?
Bien sûr que c'est la bonne idée, je vais pas dire le contraire, puisque quand on a fait un débat autour de cette question il y a peu, on avait proposé ça comme solution, c'est-à-dire qu'on avait dit on fixe un prix plafond, et ça peut se faire par l'équivalent de la flat tax en quelque sorte, et on ne dépasse pas ce prix plafond.
Parce qui fait la différence?
Mais la différence, ceux qui vont voir la différence, c'est les Français d'abord, parce que quand tu payes 2€ le litre, d'accord, c'est pas la même chose que quand tu payes 1,50€.
Qui paye la différence? Parce que par exemple, si ceux qui nous vendent le pétrole.
Non, mais il n'y a pas de différence.
Ceux qui nous vendent le baril de pétrole décident d'augmenter ce baril de pétrole, et comment
oui,
on fait?
Mais le problème, il n'y a pas de là. L'État, ton prix du pétrole monte, plus l'État gagne d'argent, puisqu'il y a un pourcentage au-dessus.
C'est vrai.
Donc, à un moment, l'État définit, je ne gagnerai pas au-delà de temps.
C'est moins de recettes fiscales.
Je ne gagnerai pas, je ne prendrai pas, je ne ponctionnerai pas au-dessus de temps, et donc tu fais un prix plafond.
Donc, c'est moins de recettes.
Non, mais c'est moins de recettes. Non, parce qu'en fait, plus l'essence est chère, moins les gens roulent, globalement, quand même. Tu as une restriction, surtout depuis le télétravail, etc., etc. Donc, les gens finissent par rester chez eux. Donc, tu as quand même, globalement, je suis persuadé que si on regardait, les entrées, elles s'équilibrent à un moment. Mais, symboliquement, dans un pays qui est le plus fortement fiscalisé d'Europe ou du monde, si l'État dit, je vais me restreindre, je vais bloquer la hauteur de ce que je fonctionne aux Français, ça aussi, dans la symbolique, dans la relance d'un pays, c'est important. Sinon, on a toujours l'impression qu'on nous fait les poches, quoi.
Donc 1,50€, quel que soit le prix
du
baril.
Ou moins, ça dépend. En fait, c'est le prix hors taxe. Hors taxe, il y en a beaucoup sur le carburant. On peut décider qu'au lieu que les taxes soient en pourcentage, elles soient capées. On peut dire, par exemple, la taxe est 60 centimes d'euros.
C'est ça.
Bon, le litre d'essence sort à 0,80€ hors taxe, le litre sort à 1,40€. Bon, effectivement, si le litre d'essence sort à 1,50€ hors taxe, on sera à 2,10€. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les taxes sont capées, sont au pourcentage sur l'augmentation du tarif. C'est-à-dire que plus l'essence hors taxe augmente, plus l'État fait des résultats et des bénéfices. En sachant qu'en plus, c'est un impôt indirect, puisqu'une immense majorité des gens, quand ils vont faire le plein, c'est pour aller travailler. Pour aller travailler, pour payer des impôts. Donc c'est un deuxième impôt qu'on impose sur l'impôt. Quelque part, une majorité, c'est pour aller travailler. On part en vacances, mais bon, tout le monde, quand tu prends ta voiture le matin, c'est pour aller à la clinique. Voilà. Et donc, je trouve effectivement qu'il ne faut pas parler en pourcentage sur les taxes pour le carburant, qui est aujourd'hui quelque chose d'essentiel pour les Français, mais
c'est une bonne proposition de plafonner.
Et je suis persuadé que si on partait sur le modèle américain et qu'on affichait de partout les prix hors taxes,
producteurs de pétrole,
les États réaliseraient les impôts indirects qu'ils paient.
Oui, mais les Américains, surtout, c'est pas une bonne comparaison, parce qu'il y a des impôts sur le prix de l'essence, mais comme ils produisent eux-mêmes le carburant, forcément, il est moins cher aux États-Unis.
Mais surtout, s'il n'y a pas de limite à la perception de la taxe, on voit clairement que plus le nombre de voitures électriques va être important, plus on va taxer l'électricité.
Ah, bah, ça,
parce
c'est
qu'on
sûr.
Va te dire, mais voilà, donc.
Il va falloir bien récupérer ses recettes.
Non, mais c'est justement là, avant de passer à ça, c'est pour ça que peut-être il faudrait que, symboliquement, on arrive à prendre cette décision.
Bah, le faire, on fonctionne plus. C'est une bonne idée de plafonner à 1,50€ le litre d'essence.
Oui, Mourad et Jérôme ont déjà expliqué un certain nombre de mécanismes, donc je ne vais pas me relancer. Vous me permettrez de refaire encore un petit regard en arrière. Et une fois encore, on est dans une période charnière. La question de la lourdeur fiscale, la question de du poids fiscal qui pèse sur ce qu'on appelle aujourd'hui les classes moyennes et les classes populaires, encore une fois, excusez-moi, ça nous rappelle la période pré-révolutionnaire, c'est-à-dire avant 1789, avec un État où le déficit budgétaire est tel que les dirigeants n'arrivent pas à trouver de solution. Alors qu'on leur en montre une à l'époque, c'est la fin des privilèges, etc., pour essayer effectivement de combler les déficits de l'État. Là aussi, on envoie, et toutes les oppositions, quelles qu'elles soient, et le débat public, propose à nos dirigeants depuis plusieurs années des solutions pour réduire les déficits, ils n'écoutent pas. Et nous avons cette pression fiscale qui continue de s'exercer sur les classes populaires et les classes moyennes. En 1789, c'était le prix de la farine, la taxe sur le sel et la farine. Aujourd'hui, c'est la taxe sur l'équivalent de la farine aujourd'hui, c'est-à-dire l'essence. L'essence est aujourd'hui un bien essentiel pour se déplacer pour la majorité des gens. Encore une fois, pour Monsieur Tavares, il s'en fiche quand il fait le plein. C'est pas 2 euros ou 4 euros ou 10 euros. Ça lui pose pas de problème comme à bien des gens pour mettre dans leur SUV. En revanche, pour les classes moyennes, les classes populaires et ceux qui travaillent dans, avec leur utilitaire, c'est un vrai problème. Donc, est-ce que ceux qui nous dirigent ont un peu hauteur historique pour comprendre que la situation, elle est pire qu'inflammable?
Ils peuvent agir
sur les taxes qu'ils agissent sur les
et
taxes.
Puis on peut pas avoir comme base l'État gagne plus et les Français gagnent moins.
Oui. À un moment,
on ne peut pas tout c'est baser. Pas... Une politique ne peut pas être basée là-dessus. Pour que l'État gagne plus, il faut que les Français gagnent moins.
Mais parce qu'il y a des gens qui ne sont rien.
Je rappelle que le chèque de 100 euros qu'ils nous font, c'est de la cavalerie. Parce que sur les 100 euros, ils récupèrent une partie en taxes.
Bien sûr.
Pas le chèque de 100 euros.
Pierre Chasseret est avec nous, celui qui est à l'origine de cette idée, le président de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre.
Bonjour les GG.
Alors c'est vrai que l'idée avait été évoquée dans les grandes gueules par Jérôme Marty lui-même, plafonnée à 1,50 euros. 50, en fait, c'est un prix psychologique, c'est le prix acceptable.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, Jérôme Marty fait partie de tous ces automobilistes que j'ai pu rencontrer, dont on a fait un micro-trottoir, et à qui on a demandé quel est pour vous le juste prix en fait d'un litre de carburant. Et on va dire qu'à 80%, ce que me disaient les Français à la pompe, c'était 1,50€. Donc, on ne s'est pas cassé la tête trop pour lancer le nom de l'opération et la pétition. On a appelé ça 1,50€.fr, de manière à ce que ça soit très simple pour tout le monde. Et aujourd'hui, cette pétition en ligne, elle est en train de cartonner. Alors, c'est triste, hein. Si elle cartonne, c'est parce que là, j'ai 1,3 million ou 400 000 personnes qui ont répondu. Ça veut dire qu'on a une part des Français aujourd'hui qui est en train d'arbitrer ses déplacements et qui a l'impression de payer une rançon sur le droit de rouler quand ils arrivent à la station service.
Pourquoi c'est un impôt supplémentaire qu'on a besoin et qu'on a plus besoin de sa voiture pour travailler, comme un commercial par exemple?
Attendez, pourquoi ça repart à la hausse en fait en ce moment?
Alors, pourquoi ça repart à la hausse? Parce qu'on a une légère augmentation du baril. Ouais. Mais il faut savoir que ce prix du baril, quand on le compare au prix du baril sous Nicolas Sarkozy par exemple, on est en dessous. Donc, et à l'époque de Nicolas Sarkozy, avec le système fiscal, les prix étaient plutôt aux alentours d'un euro cinquante. C'est pour ça que ce qu'on propose, en fait, c'est très bête, basique, on propose de revenir au système fiscal avant les augmentations de la fiscalité qui ont été pratiquées par le tandem François Hollande-Emmanuel Macron. C'est-à-dire reprendre le système fiscal qui était celui du moment où Sarkozy était au pouvoir. Enfin, je dis Sarkozy, ça pourrait être les autres hommes politiques avant. Et puis faire en sorte que les prix redeviennent acceptables. Parce qu'on parle toujours de la voiture travail. Moi, je veux bien. Mais on peut parler de la voiture plaisir, des relations sociales.
Oui.
Et puis je vais vous donner un exemple.
On ne fait pas que travailler dans la vie.
La voiture des grands-parents pour aller chercher les petits-enfants ou les emmener en vacances, ça compte aussi.
C'est un impôt supplémentaire sur le travail, c'est tout.
Je voudrais quand même pointer du doigt quelque chose.
Aller au restaurant.
Alors évidemment, il y a la consommation, bien sûr, parce que ça, il faut de l'argent qui circule. D'ailleurs, prendre de l'argent à la pompe, c'est stupide économiquement. C'est un impôt direct. Pendant ce temps-là, l'argent ne travaille pas. Donc c'est complètement stupide. Mais on est tous sensibles à la désertification médicale. Les déserts médicaux, on en parle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui prend sa voiture, qui fait 25 bornes aller, 25 bornes retour, parce qu'il n'a pas de médecin plus proche. Déjà, il a du bol s'il en a un à 25 km. Eh bien, il paye un impôt à hauteur de 60% sur le droit de se déplacer, parce qu'il n'a en plus, il subit la double peine, il n'a plus de médecin.
Les politiques qui ne sont pas choqués par cela sont choqués par les médecins qui prennent quelques honoraires complémentaires. C'est-à-dire, ils te disent, oh là là, vous prenez des honoraires complémentaires, mais c'est une inégalité de fait. Et là, il n'y a pas d'inégalité quand t'es ponctionné au temps de
100%. Mais Pierre, c'est ça, ouais. Pierre Chasseret, vous savez très bien qu'il y a un courant politique qui nous explique depuis plusieurs années qu'il est nécessaire que les prix restent élevés pour pousser les Français à se tourner soit vers l'électrique, soit vers les transports en commun, soit le vélo, etc. Et que si on fait baisser trop le prix de l'essence, eh bien, on ne change pas d'habitude, on ne change pas de modèle. Et la transition écologique, il faut taxer le carbone pour financer la transition. Donc là, vous nous proposez finalement de faire l'inverse. Est-ce que c'est pas à contre-courant, en fait?
Ok, bon, alors ce qui est bien, c'est que je suis dans les GG, donc je vais pouvoir dire ce que je pense. Tant qu'on continuera à donner la parole et à écouter une minorité qui est en train, par ses prises de décision,
oui,
de foutre la France à feu et à sang, on n'en sortira pas. Regardez la différence. Quand on a Greta Thunberg qui arrive en France, on la met à la une du journal. À Amsterdam, elle a été arrêtée, coffrée, mise en garde à vue. C'est-à-dire qu'objectivement, nous, quelqu'un qui se couche sur au milieu de l'autoroute ou sur une route en disant « Oui, mais le projet, c'est de la désobéissance civile. Oui, je dégonfle des pneus le week-end. »
Ne contracte pas.
Parce que j'ai rien à foutre de ma vie, eh bien tous ces gens-là, aujourd'hui, qui pourrissent la vie des Français et qui sont minoritaires persuadés que la fin du monde, c'est pour après-demain, aujourd'hui, ils sont en train de tuer l'économie du pays.
Excusez-moi, monsieur Chasseret, je suis d'accord pour abaisser les taxes, mais enfin, faut pas non plus maintenant nous expliquer que la production automobile et que les voitures ne participent pas dans une certaine mesure au réchauffement climatique.
Non,
il y a peut-être des limites, quand même.
Il faut pas confondre deux choses. Il y a
vous êtes climato-sceptique, monsieur Chasseret ?
Attendez. Il y a l'automobiliste et l'automobile. Deux choses différentes. L'automobile, elle est vendue par des constructeurs automobiles qui doivent faire des efforts sur les normes, etc., etc. L'automobiliste, il a acheté quelque chose, il a fait un crédit, il a besoin de son véhicule, il n'a pas acheté de la drogue sous le manteau. Donc lui, il faut le laisser tranquille. Il a besoin de circuler, il a besoin d'accéder, je sais pas, d'emmener son gamin au ping-pong le mercredi, d'aller à l'hôpital, d'emmener ses petits-enfants à l'école, et j'en passe. Et tous ces déplacements de loisirs sont taxés à 60%.
Non mais j'ai bien compris. Non mais sauf que votre discours à un moment donné devient un peu extrême dans la mesure où vous accusez les militants écologistes qui veulent juste faire des actions pour éveiller les consciences à la question de la nécessité de la transition écologique.
Non, ils font des délits. Ils font des délits.
D'accord, mais enfin,
non, ils nous parlent d'écologie punitive.
Je suis pas en train de vous parler des Greta Thunberg et compagnie. Je vous parle d'écologistes qui réfléchissent et avec d'ailleurs les constructeurs automobiles et avec la plupart de ceux qui nous dirigent pour essayer quand même d'aller vers une transition écologique. Apparemment, vous, ça a pas l'air de
vous poser problème. Cela ne gêne personne. Par contre, moi, je vais vous dire quelque chose. Je lance une pétition en ligne parce que quand vous avez deux écolos de 15 ans qui vont au Louvre pour jeter de la purée sur la Joconde,
c'est deux crétins de 15 ans.
On leur fait.
Déjà, ils vont au musée. C'est bien.
On leur dit, c'est pas bien. Moi, si demain, je peux vous dire, et d'ailleurs, et franchement, je finirais en tôle, mais ça serait d'ailleurs totalement justifié. Si demain, pour dénoncer l'augmentation des carburants, on se met à jeter de la purée sur la Joconde, à votre avis, combien de temps je reste en liberté? Je termine à Fresnes. Et tant mieux.
Oh, arrêtez un peu.
Non, mais monsieur
Chassé, vous serez relâché comme les autres.
On va rappeler à Barbara surtout que quand on achète une voiture, on est déjà taxé sur la pollution avec le malus. Puis on nous colle une vignette critère.
Oui,
et puis ensuite, on nous prend des impôts, on nous taxe aussi sur l'essence. Et on n'arrête pas de
payer. Sur l'assurance, sur les excès de vitesse, sur le stationnement.
Sur l'entretien.
On peut y aller, hein.
Si l'on pense que, une fois que la transition sera faite, on va pas taxer l'électricité.
La question n'est pas celle-là, justement.
La question, c'est la fiscalité.
C'est ce que j'essaie de dire d'ailleurs depuis le début de l'émission. La question, c'est la fiscalité et le fait d'avoir des dirigeants qui sont sourds à la problématique fiscale et qui ne comprennent pas.
T'es d'accord qu'il faut décarboner.
Mais bien sûr, il faut décarboner, mais il faut le faire de façon juste. Et le problème aujourd'hui, c'est que la fiscalité dans ce pays, elle est profondément injuste, elle est profondément inégalitaire. Que ce soit Tavares, que ce soit les taxes sur le carburant, on a des dirigeants qui sont aveugles à l'injustice fiscale. Donc le problème, c'est l'injustice fiscale. C'est pas faut-il ou pas une transition écologique. Bien sûr qu'il en faut une, mais il faut arrêter avec l'injustice fiscale.
Et que
l'injustice fiscale s'appuie sur la transition écologique.
Laissez-la terminer, parce que ça va être que
l'injustice fiscale, elle repose sur la négation de la nécessité d'une transition écologique, moi, ça me pose problème. On peut faire les deux, je suis désolé.
Je remercie Monsieur Chasseret, ce qu'il nous explique, c'est qu'on essaie de nous vendre de la morale à la fiscalité en nous disant, oui, vous êtes surtaxés, mais c'est pour sauver la planète.
Voilà,
c'est des conneries absolues. Vous êtes surtaxés, c'est tout. Ils sont pas là pour sauver la planète, mais ils ont trouvé une raison morale qui leur permet de nous surtaxer.
Non, mais je parlais pas de l'État qui, effectivement, trouve avec l'automobile, le bon payeur. Je parle de ceux qui disent aujourd'hui, si on veut changer de modèle, il faut à un moment donné que les Français comprennent que rouler avec un véhicule essence, ça doit coûter plus cher que rouler avec un véhicule propre.
Pourquoi forcément par l'argent? Pourquoi forcément pas?
Parce que c'est dissuadé par l'argent. C'est très bien, ça marche toujours comme ça. Merci Pierre Chasseret. Merci pour cette proposition. On va la soumettre au 32-16 maintenant.
Mais êtes-vous d'accord? Électrique qui soit
performant. Faut-il plafonner le prix à 1,50€, le litre d'essence, bien sûr. Marc est avec nous au 32-16 dans un instant. On continue la discussion sur RMC et RMC Story.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Jérôme Marty, Barbara Lefebvre et Mourad Boudjelal. On est sur cette proposition de l'association 40 millions d'automobilistes. Faut-il plafonner le prix du carburant à 1,50€? C'est ce qu'elle propose parce qu'effectivement, depuis plusieurs semaines, on s'aperçoit que de nouveau, les prix à la pompe flambent. On n'est pas loin des 2€. Alors, il y a toujours des explications techniques, mais il y a surtout le fait que c'est un produit qui est surtaxé. Et d'ailleurs, et c'est ce que dénonçait Jérôme Marty, c'est assez immoral ou
grâce
amoral.
Grâce à Jérôme Marty,
c'est jamais dit immoral ou amoral.
Immoral.
Immoral. De savoir que l'État, finalement, plus l'essence augmente, plus l'État gagne de l'argent sur le dos de l'automobiliste via les différentes taxes.
Pendant les présidentielles, des candidats ont proposé de retirer les taxes sur les carburants. Je le rappelle quand même.
Mais et
évidemment,
comment.
À ce moment-là, tout le monde disait arrêtez, c'est pas possible, c'est n'importe quoi.
Je vais signer la pétition.
Eric est avec nous au 32-16. Il nous appelle de Montélimar dans la Drôme. Bonjour Eric.
Oui, bonjour les gars.
Bienvenue dans les Grandes Gueules. Est-ce que plafonner l'essence et fixer ce plafond à 1,50€ le litre, est-ce une bonne idée?
Alors, c'est une bonne idée, oui, mais j'y crois pas du tout, parce que l'État a besoin d'argent, donc la TVA, là, elle rentre directement tous les jours. Voilà. Les autoroutes sont pleines, donc tous les week-ends, nous, on est sur la vallée du Rhône, donc c'est plein à craquer tous les week-ends. Donc je me dis, finalement, c'est pas si cher que ça. Et puis, il y a un an, quand il y a eu l'augmentation, tout le monde gueulait. Il y a eu la grève en plein milieu, on n'arrivait plus, pénurie d'essence, mais les gens disaient « Oh, l'essentiel, même si on paye 2 euros, l'essentiel, ça donne à avoir. » Donc, pourquoi l'État va plafonner le prix de l'essence, puisqu'ils font bien comme ils veulent, quoi.
Il faut rappeler quand même que les taxes sur le carburant, c'est 60% du prix au litre. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, si en prenant un litre à 2 euros, s'il n'y avait pas de taxes, aucune
0,80.
Taxe, il serait vendu à 80 centimes. Il serait vendu à 80 centimes.
Et le plafond d'imposition pour un particulier, c'est combien?
55.
Voilà. Vous ne trouvez pas ça scandaleux que l'essence soit taxée à 60% et que le plafond d'imposition maximal pour une personne, ça soit 55.
Après tous les pays taxent leur carburant. Hein.
Oui,
en Allemagne, en Italie, même si parfois il y a un peu moins de taxes, et d'ailleurs souvent on va faire le plan en Belgique ou en Espagne où c'est un peu moins taxé, le prix est un peu plus bas, mais ces prix-là sont taxés.
Oui, mais nous, on
c'est une
taxe
façon de faire rentrer de l'argent.
Oui, mais en France, c'est toujours plus que
toujours
plus.
Toujours un peu plus.
Il n'y a pas de raison que les carburants ne soient pas taxés. Mais sur un prix qui est aussi fluctuant, il n'y a pas de raison qu'il y ait une telle changement de taxes par le pourcentage. On doit avoir une taxe fixe. Il n'y a pas de raison que l'État gagne de l'argent quand le prix du pétrole augmente. Il n'y a pas de raison.
Mais qui a décidé cela, comme ça nous a été rappelé tout à l'heure, c'est Monsieur Macron, ministre de l'économie, qui est ensuite devenu président de la République. Donc ça fait quand même 10 ans.
De surtaxer l'essence?
Non, de bloquer cette question de la taxe et de faire en sorte que la taxe, elle augmente en même temps que le prix. Excusez-moi, c'était pas comme ça avant.
Marc est avec nous.
Pour le prix de l'électricité, etc.
Donc, Marc est avec nous. Bonjour Marc.
Qui est responsable?
Merci Eric. Bonjour chouchou. Marc, bienvenue dans les Grandes Gueules.
Elle n'aime pas Macron.
J'avais remarqué qu'elle
n'aime pas Macron. Non.
Vous nous appelez du nord de la France. Est-ce que c'est une bonne idée de fixer un plafond pour le prix des carburants?
Évidemment, c'est une bonne idée. L'État prenait déjà 60%, donc quand le prix de l'essence était à 1 euro, l'État prenait 60 centimes. Aujourd'hui, il prend 1,20€. À mon avis, ça fait beaucoup plus que l'inflation qui s'est passée. Déjà 1,50€, l'État prendrait 90 centimes. Donc c'est 50% de plus, beaucoup plus que l'inflation. Et puis après, ça me fait doucement sourire les véhicules électriques. Mais aujourd'hui, moi, je suis artisan. J'ai acheté un petit Kangoo pour mon activité. Et un Kangoo électrique, ça vaut 10 000€ de plus que la version diesel.
Et pour faire Paris-Marseille,
on
met 3 jours.
En ce moment, les véhicules électriques se vendent moins bien. Notamment parce qu'on a supprimé les bonus concernant les véhicules chinois. Parce qu'en plus, l'État, argent finançait la Chine, en gros. Hein, parce qu'on, avec de l'argent public, on finançait la production industrielle chinoise. Bruno Le Maire s'est dit, tiens, ça serait quand même bien que ce soit réservé à la France.
L'électricité a augmenté.
Aujourd'hui, l'électricité, elle n'est pas très taxée, mais demain, je pense que.
Elle le sera, oui.
Elle va l'être, et donc le roule à l'électrique, ça va être encore de plus en plus cher. Quand on voit les factures d'électricité qu'on a déjà à la maison qui augmentent de manière
astronomique. Oui, c'est surtout ça, hein, parce qu'elle augmente quand même.
Au niveau des bornes, quand on fait le calcul, c'est pas si intéressant que ça par rapport à l'essence. Ça fait gagner que quelques euros pour faire un plein, et on est obligé de s'arrêter 3 fois pour descendre dans le sud. Donc c'est pas très logique. Mais le sujet principal, c'était quand même la hausse des taxes, c'est ce que l'État engrange. Et quand on nous parle de super profits et de taxer des super profits dans des sociétés, qu'est-ce qui fait aujourd'hui des super profits sur le prix de l'essence? Bah c'est bien l'État. C'est bien l'État qui a passé de 60 centimes à 1,20 € aujourd'hui, quand avec l'essence à 2 euros. Donc ils ont fait une culbute de 100% de bénéfices. Donc c'est bien eux qui font des super
pourtant,
profits.
Et pourtant, il n'y a plus un rond dans les caisses.
Ouais, mais ça, c'est un autre problème.
Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font avec tout ce pognon, ça.
Oui, mais là, pardon, mais c'est pas au moment où le gouvernement se casse la tête à trouver des économies et à raboter partout. Là, on apprend.
Y compris chez les apprentis.
Ouais, mais... ils veulent même taxer les livres d'occasion maintenant.
Ouais, ils ont enlevé les primes pour l'apprentissage.
Les primes pour l'apprentissage.
C'est une économie quand on gagne de l'argent.
C'est pas à ce moment-là qu'ils vont réduire les taxes sur l'essence.
Quand on gagne de l'argent, qu'on a commis un petit peu d'argent sur l'essence, sur le nombre de pleins qu'on fait par an en tant qu'artisan. C'est aussi de l'argent qu'on peut dépenser pour aller au restaurant, c'est de l'argent qu'on peut dépenser pour faire autre chose et qui ramène aussi
des taxes. Mais on a des gens qui pensent tableau Excel. Donc évidemment, si vous pensez je fais la colonne en moins et cette colonne en plus, si vous n'avez pas une vision, excusez-moi, l'économie, il y a toutes sortes de courants économiques, mais un gouvernement, ce qu'on attend de lui, c'est une vision économique. Si la vision économique est claire, les actions économiques derrière, elles sont claires. Là, on n'a pas de vision. On augmente
les taxes et deux, on fait quelques chèques à quelques personnes qui s'en sortent pas à cause des taxes.
Ça c'est pas une vision, c'est du gouvernement à la petite semaine.
La réalité, c'est qu'on est dans une merde énorme. Moi, je vous le dis, on est vraiment pas bien, quoi. Je veux dire, on a une note qui va être dégradée. On a besoin de lever à minima 300 milliards, peut-être 400.
Bah oui.
Et je sais pas qui c'est qui va nous la prêter, parce que moi, personnellement, je lui prêterais pas à l'État français si je les avais les 300 milliards. Et que je sais pas comment l'État français va s'en sortir. On est dans un climat économiquement qui est très anxiogène en ce moment. Oui. Voilà, je vous le dis, on va pas bien. Je sais pas pourquoi, j'ai rien contre Bruno Le Maire. J'ai quand même une confiance assez limitée dans ses capacités à nous faire.
Mais c'est pas Bruno Le Maire qui décide. Hein.
Bruno Le Maire, il ne
c'est
fait
Macron et
Colère
qui décident. Alors c'est pas Bruno Le Maire.
Mais là, on est dans une véritable merde. Et vous allez le sentir dans les. On va peut-être avoir droit à un grand emprunt d'État, c'est possible.
Ah bah alors là.
Mais ça sera compliqué parce que les taux actuellement sont très hauts et donc l'emprunt d'État, il faudra qu'il soit avec des taux très hauts, sinon il sera pas du tout attractif. Ça peut aller jusqu'à taper l'épargne. Ne rêvons pas. À un moment donné, il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Des solutions, ils en ont pas. Si on peut pas lever 300 milliards ou 400 milliards, on est très mal.
Vous avez entendu ce que dit Emmanuel Macron. Il dit que ce n'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes.
Oui, bien sûr.
Donc, en gros, je ne reverrai pas le montant des dépenses publiques, mais en revanche, je vais chercher de nouvelles recettes.
Alors, on va exporter comme des malades.
Pour l'instant, la ligne,
sur les classes moyennes,
la ligne, c'est pas d'augmentation d'impôts, donc on va aller chercher l'argent ailleurs, un peu sur les chômeurs, avec l'assurance chômage,
un peu sur les apprentis.
Sur les livres d'occasion, les apprentis, les franchises médicales, un peu sur... Voilà, un peu partout. Et donc, ça va créer du mécontentement partout. Et vous allez voir, il y aura des manifs en septembre, surtout si touche l'assurance chômage. Après les JO, il va y avoir une trêve pendant les JO.
Avant les JO, les manifs. Avant les JO, les manifs, ce serait mieux.
Mais ce qui est terrible, c'est que c'est pas ça des recettes.
Ça sera en septembre.
Les recettes, c'est des produits qui n'étaient pas prévisibles. C'est des ventes supplémentaires. Alors ça peut être de l'exportation. Ça peut être réadapter notre modèle économique pour qu'on soit plus concurrentiel dans un marché mondial. Mais les recettes, c'est pas aller taper des petites gens et des petits sous. Ce n'est pas des recettes, c'est du racket.
C'est des gens qui savent faire taper les classes moyennes. Ça a toujours été comme ça.
Marie est avec nous. Bonjour Marie.
Parce qu'ils obéissent, ils payent les impôts.
J'ai un copain qui a ouvert un restaurant, il m'a demandé est-ce que tu crois que l'État va moins me taxer que la mafia en Italie parce qu'il
comment on peut faire taire Barbara?
Non, dis donc, c'est Mourad qui parle sur le micro.
En laissant parler Marie, par exemple.
Avec plaisir, Marie.
Bonjour, Marie. Bonjour, on va essayer de vous écouter, mais avec Barbara et Mourad, c'est pas facile. Marie, bonjour, vous êtes infirmière du côté de Rouen, en Seine-Maritime, et vous vivez à la campagne?
Oui, je vis à la campagne, donc je suis à une trentaine de kilomètres, et donc on est de classe moyenne avec mon mari, donc on a fait le choix pour suivre, de soigner nos enfants avec de multiples rendez-vous, que j'arrête de travailler, et en fait ma fille a 4 rendez-vous par semaine, l'année dernière j'avais aussi mon fils avec 2 rendez-vous par semaine, sauf que j'ai tout à une trentaine de kilomètres l'aller et retour. Donc ça me fait quand même une 60-70 kilomètres à chaque fois, tous les jours.
Vous faites un plein par semaine?
Comment?
Vous faites quoi, un plein par semaine?
Oui, facilement. J'ai aussi leurs activités sportives, donc c'est pareil. Ouais. Et si je veux voir un peu ma famille, ça devient compliqué.
Donc obligation d'avoir une voiture et obligation de faire au moins un plein par semaine. Vous avez constaté que les prix augmentaient à la pompe ?
Ah bah je suis passé de 70 à 100 euros.
Ah oui, dernièrement ?
Ça augmente tout doucement, mais sûrement.
Mais sûrement. Est-ce que vous aviez bénéficié, parce qu'il fut un moment où on était encore dans le quoi qu'il en coûte, et on a donné des chèques, de l'argent, est-ce que vous avez bénéficié?
Non, on est classe moyenne, donc non, rien du tout.
Puis Marie, elle a la chance d'être infirmière, et les infirmières, elles ont quand même gagné 25 centimes d'euros en 12 ans.
Mais moi, je travaille plus, là, je suis en arrêt, j'ai pas de chômage, j'ai rien du tout.
Non, non, mais je rappelle que les infirmières ont gagné juste 25 centimes d'euros en 12 ans sur les indemnités kilométriques, quoi. Et pour les médecins, donc, ça n'a pas été revalorisé depuis 30 ans.
Les revenus n'augmentent pas, mais tout augmente. Hein. Les mutuelles pour faire rembourser ont augmenté. Ça augmente, quand vous avez fait le sujet, justement, je n'ai pas pu intervenir, mais c'est pareil. Mon fils s'est fait opérer, dépassement d'honoraires, 1500 euros. C'est pour moi.
Et oui.
Donc plus l'essence, là, ça se termine plus. Alors je fais quoi? Je ne vois plus ma famille, je ne leur fais plus de sport, je ne suis plus mes enfants.
Doit-on taxer la mobilité déjà?
Je fais comment pour aller chercher du pain? C'est 10 km.
Eh oui. Oui, mais c'est la double peine pour ceux qui vivent loin des transports en commun.
Et après, on veut lutter contre la métropolisation.
Il n'y a pas de bus, j'ai rien.
Comment on fait?
Il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Oui,
à part pour le collège, ils auront un transport en commun, enfin, un car qui passe pour le collège. Mais après, même pour aller à l'école primaire, je suis à l'extérieur du village, donc j'ai 2 km. Mais c'est de la route nationale, il n'y a pas de trottoir, je ne peux pas y aller à pied. Je suis obligée de prendre ma voiture avec mes enfants.
Donc le plafonnement de l'essence à 1,50€, ça serait une bonne idée.
Je sais pas, on nous prend de partout. Mais je pense que ce serait bien. Parce que
le risque, c'est que le gouvernement dise d'accord, mais dans ce cas-là, on va inventer d'autres taxes pour récupérer l'argent.
Ils ont une capacité créative assez incroyable.
Aucun doute sur leur capacité à augmenter les taxes.
Merci Marie, bon courage à vous. Merci pour ce témoignage. La question était posée sur notre compte X, le compte X des Grandes Gueules. Faut-il plafonner le prix à 1,50€? Je parle bien sûr du carburant. Et c'est oui, très largement, à plus de 86%.